rapport à notre Église, en particulier cette Assemblée ici à Bussy. Nous sommes dans une phase de transition assez rapide, et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'imagine que si. Déjà, le fait d'être dans cette salle, ça change beaucoup pour nous. Et aujourd'hui n'est que le quatrième dimanche. Mais plus que ça, quand je regarde cette assemblée, je peux compter parmi la soixantaine d'adultes, même si on est un peu moins aujourd'hui à cause des vacances. Mais je peux compter parmi la soixantaine d'adultes une bonne vingtaine de personnes qui sont arrivées au cours de cette dernière année. Ça fait un tiers pour ceux qui n'aiment pas les maths. Un tiers. Et je mentionne cela d'abord parce que si vous êtes relativement nouveau dans une église, vous pouvez avoir l'impression que tout le monde connaît l'église déjà, sauf vous, et qui se sentent plus chez eux que vous, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas forcément le cas. Si tu es arrivé récemment parmi nous, tu n'es pas le seul. Et je le mentionne aussi parce que quand une famille évolue, il faut en parler. Qu'une famille grandisse, c'est un sujet de joie, évidemment, mais ça peut être déstabilisant aussi. Comme pour moi, par exemple, là, sans pupitre normal, c'est un peu déstabilisant. Mais aussi, par exemple, parce que moi, je constate que je n'arrive pas toujours à saluer tout le monde chaque dimanche. Dans l'ancienne salle, on n'avait pas de choix, parce que on était tellement entassés les uns sur les autres qu'on croisait presque toute l'assemblée juste en allant aux toilettes. Mais maintenant, gloire à Dieu, on a plus d'espace. C'est une grâce, mais ça change aussi les réalités de notre vie ensemble. Et je dis tout ça simplement pour dire que nous voulons évoluer avec intelligence et avec la sagesse du Saint-Esprit. Et pour ça, il faut toujours revenir à la base, toujours revenir au fondement de l'Église, ce qui est la parole, l'enseignement des apôtres, et toujours revenir à Jésus, qui est la pierre angulaire, le frère aîné de cette famille. Et puis aussi être prêt à changer nos habitudes, s'il faut. Faire exprès, par exemple, de saluer les gens qu'on ne croise pas tout simplement en allant aux toilettes. Et avoir confiance qu'avec Jésus au centre, cette famille tiendra et plus qu'elle avancera ensemble. Et nous allons lire donc Éphésiens 2, 17. Ce matin, je vous encourage à trouver dans vos Bibles Éphésiens 2, 17 jusqu'à 3, verset 12. Donc Éphésiens 2, 17. Et je vous encourage vivement à lire toute l'épître d'Éphésiens à la maison cette semaine. On va rester un peu avec l'épître aux Éphésiens dans ces semaines à venir, aussi l'épître à Tite. Mais cette lettre aux Éphésiens est une belle lettre qui traite ce thème de l'Église dans le plan de Dieu. Alors, commençons avec chapitre 2, verset 17. Il est venu, c'est Jésus, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et puis si on saute à chapitre 3, verset 6, ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qui forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu, en Jésus-Christ, par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi, Paul, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Le mystère caché de toute éternité en Dieu. C'est une phrase un peu frappante. Mais ce mystère dont Paul parle dans ce passage, c'est le fait que depuis toute l'éternité, Dieu a voulu construire un peuple, une famille, et que finalement cela allait être possible grâce au sacrifice de Jésus, et que ce projet allait se réaliser par l'Église. Même si la construction de cette famille a commencé par une famille biologique, la famille d'Abraham, la grande surprise du Nouveau Testament est que ça va finir en rassemblant tous les peuples de la terre, que nous tous, juifs et non-juifs, pouvons avoir accès à Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est donc plus une question de devenir juif, heureusement, de se faire circoncire et de suivre la loi de Moïse. C'est une question de mettre notre foi en Jésus. Et ainsi, nous devenons une famille aussi réelle, aussi liée les uns aux autres que n'importe quelle famille biologique, que les Juifs ou autres, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a rassemblés pour être la pièce maîtresse de son plan d'avoir une famille qui recouvre toute la terre. C'est le grand mystère dont Paul parle ici. Et nous ne pouvons donc pas devenir chrétiens. Nous ne pouvons pas être disciples de Jésus et puis passer à côté de l'Église. Non pas parce que l'Église est nécessaire à notre salut. Faites attention, parce qu'il y a des églises qui enseignent ça. Non, l'Église n'est pas nécessaire à notre salut. Mais parce que nous sommes sauvés justement pour faire partie de l'Église. La vision biblique du salut n'est pas qu'on soit simplement pardonné afin d'aller au paradis avec Dieu après la mort, même si ça en fait partie. La vision biblique du salut est beaucoup plus riche que ça. C'est qu'on soit pardonné afin d'être uni à Christ et ainsi d'appartenir avec lui à la famille éternelle de Dieu. Sur terre d'abord, et puis au paradis, et puis dans la nouvelle création d'Apocalypse 21. On va voir donc trois choses ce matin par rapport à cette famille qui est la nôtre, si nous avons mis notre foi en Jésus. Trois choses. D'abord, elle est riche en diversité, elle est connue depuis toute l'éternité, et elle est essentielle au plan de Dieu pour l'univers. D'abord, donc, la diversité dans l'Église. Parfois, l'idée de la diversité, ça peut devenir un peu cliché, surtout dans la culture moderne, parce qu'on en parle beaucoup. Mais n'oublions pas que si la culture moderne arrive à célébrer la diversité culturelle et autres, l'Église y était en premier. Parce que déjà, il y a 2000 ans, Paul suppliait les Juifs et les Romains de s'aimer les uns les autres et de mettre de côté leurs suspicions et leurs méfiances pour vivre comme une vraie famille. Et c'était une demande inouïe dans le monde ancien. Il ne faut pas sous-estimer la nature choquante de cette idée que les Juifs et les Romains soient ensemble dans une même église. C'était complètement bouleversant. Et ça se voit partout dans les épîtres du Nouveau Testament, en fait. C'est l'arrière-plan de beaucoup de ce que Paul dit. Et ça reste un défi aujourd'hui, parce que l'Évangile est destiné à couvrir toute la terre comme les eaux de la mer. Et ce n'est plus juste une question des Juifs et Romains. C'est les Français, et les Espagnols, et les Congolais, et les Ivoiriens, et les Italiens, et les Sri Lankais, et les Malgaches, et les Chinois, et les Américains. Et bah, voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Mais quand même, j'aurais pu continuer. Alors, nous sommes aussi des gens de la campagne et les gens de la ville, derrière plan religieux, athées, très spirituels. Nous sommes des gens animés et des gens plutôt calmes, des extravertis et des introvertis, des scientifiques et des gens qui aiment travailler avec leurs mains. Jésus nous appelle tous et l'Évangile nous touche tous. Et si, dans la société moderne, la diversité est parfois mise en valeur, il faut reconnaître que c'est quand même souvent une diversité assez superficielle par rapport à ce qu'on a dans l'Église ou à quoi on est appelé dans l'Église. Moi, je me souviens comment moi et mes amis, nous nous pensions être très multiculturels au moment où nous avons appris à aimer la musique écossaise. Juste parce qu'on vivait à Glasgow pendant un an. Et on pensait qu'on était un peu... Ben voilà, on aime bien les cultures différentes que la nôtre. Mais ce n'est pas ça dont Paul nous parle. Parce que c'est une chose d'apprécier la musique écossaise et la gastronomie asiatique et l'artisanat africain. Et c'est une autre chose d'apprécier et de connaître les personnes qui l'ont fait. Et de se laisser interpeller par elles et par leurs expériences avec Dieu en plus. Et c'est à ces dernières tâches que nous sommes appelés par Jésus. Si la société moderne célèbre la diversité des expressions culturelles dans notre monde, nous sommes appelés à célébrer les personnes et la diversité de ce que Dieu fait à travers chacun et en chacun. Ce n'est pas donc une diversité légère que prône l'Évangile, c'est une diversité extrêmement profonde, car ce n'est pas juste une question de diversité culturelle, c'est une diversité de dons et d'expérience avec Dieu. Et cette richesse est essentielle pour notre mission, la mission d'être ses témoins et de vivre son règne sur terre. Plus tard dans cette même lettre, Paul va dire: celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Afin de remplir tout l'univers de sa présence, Jésus a donné à l'Église toutes ces diverses personnes. Et dans sa lettre aux Romains, l'apôtre va élargir la liste pour parler de ceux qui ont des dons de service, d'encouragement, de générosité, de direction et de bienveillance. Et plus tard, aux Corinthiens, des dons de sagesse, de connaissance, de guérison, de miracles et de langue. Et tous, il dit tous, existent pour l'édification de l'Église. Pour l'édification de cette famille, c'est-à-dire pour la construction de cette famille. Et Paul est clair, personne ne va avoir tous ses dons. Et aucun don spécifique ne va se trouver chez tout le monde. Pourquoi? Pour que nous soyons dépendants les uns des autres. Comme les membres d'un corps, comme les membres d'une famille. Si vous êtes chrétien, depuis un peu de temps, vous savez cela déjà, probablement. Mais c'est facile d'oublier et ainsi de tomber dans un de deux extrêmes. Soit nous commençons à nous demander pourquoi les autres ne font pas autant que nous, parce que nous ne reconnaissons plus la légitimité des dons des autres, qui se font souvent dans les coulisses, sans que tout le monde sache. Soit nous nous culpabilisons parce que nous ne reconnaissons plus la valeur de notre propre contribution à la famille. Et je vous donne un petit exemple. Face aux transitions que nous vivons cette année, le conseil a commencé à rédiger une liste de tous les ministères qui se font dans cette assemblée. C'est une longue liste. La sono, la présidence, le montage, la salle, la musique, l'enseignement, et ainsi de suite. Et il y a quelques semaines, j'ai partagé cette liste avec quelqu'un de l'Église pour avoir ses retours sur un certain point. Et quelques jours plus tard, cette personne m'a dit qu'en fait, elle était découragée en regardant cette liste. Et se sentait un peu inutile, parce que la liste est longue et elle ne fait pas grand-chose, elle m'a dit. Et franchement, j'étais étonné. Parce qu'en mon sens, cette personne est très impliquée dans la vie de l'Église. Et en plus, je me trouve toujours encouragé par sa présence et par sa perspective, pour ne rien dire des tâches importantes qu'elle accomplisse. Et j'ai essayé donc de la rassurer, et j'espère que ça a aidé. Mais je partage cette petite histoire avec vous pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est facile, surtout dans une église qui bouge, d'imaginer qu'on ne fait pas assez. Surtout si on se compare aux autres. Mais notre valeur devant Dieu ne se trouve pas dans ce que nous faisons pour lui, mais dans le fait que nous sommes ses enfants. Et oui, c'est normal que nous voulions servir notre Père. Mais encore, n'oublions pas que ses enfants ne sont pas tous pareils. Le service auquel Dieu t'appelle ne ressemblera pas forcément à celui de ton frère et de ta sœur à côté de toi. Et personne ne va tout faire. Je partage cette petite histoire aussi pour nous rappeler que même les personnes qui nous semblent évidemment appréciées peuvent se trouver découragées. Donc, ne ratons jamais l'occasion d'exprimer notre appréciation les uns pour les autres. Et je le partage aussi pour dire, si tu vois un besoin ou si tu as une idée pour un ministère que tu aimerais faire, ou même si tu veux servir mais tu ne sais pas comment, s'il te plaît, viens me voir, viens voir un membre du conseil pour qu'on puisse en parler. Avec une assemblée d'une centaine de personnes, les dirigeants ne peuvent pas tout voir. Nous avons besoin de chacun pour grandir ensemble. C'est ça toute l'idée d'une famille. Et c'est ce que Dieu veut de nous, que nous soyons sa famille. Non pas juste n'importe quelle famille, la famille de Dieu. Rassemblée de toutes les nations de la terre, composée de personnalités et de dons et de ministères divers et variés, justement pour révéler la sagesse infiniment variée de Dieu lui-même. C'est son but depuis le début de la création. Alors, la deuxième chose, c'est que cette diverse famille fait partie du plan éternel de Dieu. Et ça veut dire en fait deux choses. D'abord, cette assemblée composée de 3 et 3 et 3, cette assemblée a été connue depuis toute l'éternité. Et nous savons tous, j'espère, nous savons que Dieu nous a connus tous individuellement depuis toute l'éternité. N'est-ce pas? C'est lui qui nous a façonnés dans le ventre de notre mère. Et nous sommes chacun son œuvre, créés pour faire son œuvre, Éphésiens 2:10, et choisis avant la fondation du monde même, Éphésiens 1:4. Et il connaît donc tes faiblesses et tes points forts. Il sait ce que tu aimes, il sait ce qui te touche, ce qui te fatigue, ce qui te fait peur. Et plus important, et la différence à la différence de ce qu'on peut croire parfois, Dieu n'en est pas déçu. Dieu ne s'est pas trompé en te créant. Ah oui, tu n'es pas encore ce que tu seras. Et le péché dans notre vie l'attriste. Mais notre Père nous aime, toi, avec ta personnalité et tes dons spécifiques, ce que tu ne vois même pas peut-être toi-même. Il t'aime parce que tu as été créé par lui et pour lui, et il connaît son métier. Et ce que Dieu nous dit ici dans ce passage, c'est que si cela est le cas pour chacun de nous en tant qu'individu, c'est pareil pour l'Église. C'est lui qui bâtit cette Église ici à Bussy aussi. C'est lui qui bâtit cette Église avec des pierres vivantes qu'il a connues depuis toute l'éternité, toutes différentes et toutes avec un rôle important à jouer. Et certes, en tant qu'Église, nous ne sommes pas encore ce que nous serons, sans tache ni ride. Mais c'est notre Père qui nous a rassemblés ce matin. C'est notre Père qui a créé cette assemblée. Et il nous a mis ensemble pour une raison. Tu es là pour une raison ce matin. Et la personne à côté de toi aussi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu es là depuis longtemps, vas-tu accueillir les nouveaux venus à côté de toi dans cette famille? Vas-tu te souvenir que tu es une pierre vivante, un enfant de Dieu, entouré de frères et de sœurs qui t'aiment et qui ont besoin d'être aimés? Et si tu es relativement nouveau parmi nous, est-ce que tu te rends compte que nous avons besoin de toi. Que Dieu t'a amené ici, non pas juste pour tes propres besoins, mais parce que son peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous espérons que chacun reçoit ce dont ils ont besoin ce matin. Mais nous avons besoin de vous aussi. Il y a dans la famille de mon père 8 enfants. Et si on compte donc tous les époux et les enfants et leurs époux et les petits-enfants et leurs époux maintenant et leurs enfants en plus, nous sommes maintenant une bonne centaine dans la famille de mon père. Bon, les parents de mon père. Et chaque été, la plupart d'entre nous se retrouvent à la campagne en Pennsylvanie pour un week-end dans un gîte. Ben enfin, ma grand-mère et les autres d'un certain âge dorment dans le gîte. Et les autres font du camping dans les champs qui l'entourent. Mais ce qui m'a toujours impressionné pendant ces week-ends, c'était que parmi cette grande foule, ma grand-mère et mes tantes et mes oncles ont toujours pris le temps d'apprendre et à connaître et apprécier les nouveaux venus. Que ce soit les enfants ou que ce soit les nouveaux époux qui se sont mariés avec un de mes cousins. Ma grand-mère et mes oncles et tantes auraient très facilement pu rester entre eux. Un peu suspicieux de ces jeunes avec leurs accents qui indiquaient clairement qu'ils venaient d'une autre région et avec leur façon de s'habiller qui n'avait rien à voir avec la tradition mennonite dans laquelle j'ai grandi. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Au contraire, ils ont considéré que chacune de ces personnes avait sa propre histoire et le besoin d'appartenir à une famille. Et s'il allait venir dans notre famille, on allait être une vraie famille, même avec les gens qui étaient quelque part les enfants adoptifs, les époux des cousins. Et il voyait aussi que chacune de ces personnes avait quelque chose à nous apporter en tant que famille. Depuis la création du monde, au moment même où Dieu plaçait les étoiles dans notre ciel de l'autre côté de l'univers, il a vu cette église et ce culte même. Il savait qu'un jour, sa famille serait là dans cet hôtel, ce matin à Bussy pour l'adorer et pour vivre notre vie de famille ensemble, et que tu serais là avec quelque chose à apporter. Depuis la création du monde, tout ça faisait déjà partie de son plan. Vous croyez ça? Vous voyez ça? Comment ça change notre jour? La réalité qu'au moment où Dieu était en train de placer les étoiles, il voyait ce qui allait se passer ce matin. N'imagine jamais que toi et les autres sont là par hasard. Demande plutôt comment cela fait partie du plan éternel de Dieu. Et la deuxième implication de ce plan éternel, c'est que si Dieu a vu ce matin depuis toute l'éternité, il a aussi vu notre avenir. Il a déjà vu le culte du dimanche prochain. Il a déjà vu les conversations qui auront lieu cette semaine, nos prières et nos moments de partage et d'études autour de sa parole. Il nous a créés pour tout ça. Et il sait où nous serions dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. Cette assemblée, où est-ce qu'on sera dans 20 ans? Moi, j'ai aucune idée. Mais Dieu, il sait. Il sait pour la semaine prochaine et il sait pour 20 ans d'ici. Jésus a annoncé à Pierre qu'il bâtirait son Église. Et même Satan ne pourrait pas y résister. Et il a annoncé donc aussi qu'un jour, il nous présentera à son Père, nous, la pièce maîtresse de sa création. Ce qui veut dire que par notre vie ensemble, nous bâtissons avec lui une famille qui durera pour toute l'éternité. Vous en rendez compte? On fait quelque chose ici qui va durer pour toute l'éternité. Nous construisons maintenant la communauté d'Apocalypse 21 qui habitera la nouvelle création. Peu importe où Dieu t'amène dans cette vie, un jour, nous allons nous revoir dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et tous les liens que nous avons pu tisser ensemble continueront pour toute l'éternité. Commençons alors dès maintenant à vivre comme la famille que nous sommes et que nous serons à jamais. Et n'oublions jamais que cette famille joue un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Et pour voir cela, j'aimerais parler de quelques versets dans ce passage qui sont franchement un peu choquants quand on y pense. Et c'est verset 10. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église et par l'œuvre de Christ dans l'Église que Dieu a choisi de révéler sa sagesse infinie au monde. Et non pas juste au monde terrestre, mais aussi au monde céleste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le monde céleste? Les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Tout simplement, c'est le monde spirituel. C'est le monde qui existe autour de nous, que nous ne voyons pas, mais qui est aussi réel que ce que nous voyons. Et dans ce monde spirituel, il existe des êtres spirituels qui nous regardent et qui cherchent aussi à influencer ce monde. Certains selon la volonté de Dieu, les bons esprits que la Bible appelle les anges, mais aussi les mauvais esprits. Et là, juste une petite parenthèse. Ne soyez pas trompés par le mot « céleste » dans ce passage. Dans la Bible, le terme « céleste » peut signifier quelque chose qui vient de Dieu, le royaume des cieux, par exemple. Mais à la base, ce terme veut dire tout simplement quelque chose de spirituel. Et c'est pour ça que Paul peut dire à la fin de cet épître, au chapitre 6, verset 12, que nous luttons contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Parce qu'il parle du monde spirituel. Et Paul utilise le terme « autorité céleste » ici dans notre passage pour évoquer tout le monde spirituel, bon et mauvais. C'est à ce monde que Dieu révèle sa sagesse infiniment variée par le moyen de l'Église. Savez-vous ce que vous faisiez ce matin en venant à l'église? Imaginez-vous, en vous habillant, que vous alliez faire une telle chose. Les enfants demandent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, papa? Et vous dites, on va aller proclamer la sagesse infiniment variée de Dieu aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, ma petite. Bon, peut-être pas. Parfois, c'est difficile juste à faire brosser les cheveux avant de partir, même prononcer une phrase comme ça. Mais c'est ce qu'on fait, quand même. Non pas juste en venant au culte, mais en étant l'Église chaque jour de la semaine. Ce n'est pas une question des choses qu'on fait, c'est la question de qu'est-ce qu'on est. Nous sommes l'Église. Et voici donc le point à retenir. L'Église n'a pas un rôle secondaire à jouer dans le combat spirituel entre le bien et le mal. Ce n'est pas comme s'il y avait un combat qui faisait rage autour de nous et que nous étions là un peu comme des spectateurs ou des pions. Nous, l'Église, la famille de Dieu, nous avons le rôle principal. Et c'est le monde spirituel qui regarde et qui verra la vérité à travers ce que Dieu fait en nous. Et cette vérité, c'est un message de victoire déjà accompli. C'est le dernier verset de notre passage. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En Christ, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et ça veut dire que nous tous, juifs, non-juifs, hommes, femmes, enfants, européens, africains, asiatiques, américains, d'une famille chrétienne, musulmane, athée, peu importe notre arrière-plan, nous pouvons tous nous approcher de Dieu par la foi en Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. C'est comme ça que Dieu avait décidé de créer sa famille. Depuis la fondation du monde, c'était le plan. En Jésus, ce plan a été révélé pour la première fois et c'est par notre vie en tant que sa famille que ce plan continue à être révélé au monde, le monde spirituel aussi bien que le monde terrestre. Ce que tu dis à ton frère ici ou n'importe où, ce que tu dis à ton frère, ce n'est pas juste entre toi et lui. Parce que ta façon d'aimer la famille de Dieu fait partie de ce dévoilement, du dévoilement de ce mystère. Notre attitude les uns envers les autres, ce n'est pas juste une question de s'entendre bien pour qu'on puisse passer un moment agréable ensemble. Notre façon d'aimer et de respecter nos frères et nos sœurs qui sont différents de nous par leur personnalité, par leurs dons, par leur culture, c'est une occasion de proclamer haut et clair devant le monde entier, devant toutes les puissances et les autorités qui existent, que Christ nous a unis et que nous sommes ses enfants à jamais. Et chaque ministère que nous avons au sein de cette Église sert aussi à proclamer haut et fort la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il proclame à Satan et à tout le mal dans le monde qui sont déjà vaincus. À la croix et par sa résurrection, Jésus est déjà vainqueur. Et notre présence ici, ensemble, en est la preuve. Il faut vivre comme si c'est la vérité, parce que c'est la vérité. Alors, si tu ne fais pas encore partie de cette famille, je veux dire la famille de Dieu, la famille universelle de Dieu. C'est simple à faire. Reconnais que tu ne peux pas t'approcher de Dieu à cause de tes péchés, mais qu'en Jésus, par la foi en lui, tu peux. Détourne-toi de l'ancienne personne que tu étais pour devenir par sa grâce son enfant. Tu peux le faire là où tu es, ou tu peux venir prier avec quelqu'un. Et par contre, si tu as déjà fait ce pas dans ta vie, mais tu reconnais ce matin que tu as quelque chose à laisser entre les mains de Dieu, une mauvaise attitude envers un frère ou une sœur peut-être, quelque chose dans ta vie où tu ne vis pas, tu ne proclames pas à Satan ce que Jésus a fait pour nous en tant que famille, ou peut-être tout simplement un désir de laisser Dieu travailler en toi et à travers toi, en tant que son enfant bien-aimé. Je t'invite aussi à prier avec quelqu'un après le culte ou à la fin du culte. Parce que venir prier, c'est aussi une manière de proclamer, non pas juste à Dieu, mais au monde céleste, ce mystère infini et éternel de la grâce de notre Dieu qui nous a fait ses enfants éternels. Alors, nous allons chanter comme réponse à ces vérités. Et pendant ces deux derniers chants, il y aura des gens des deux côtés, comme nous avons fait ces derniers dimanches, pour prier avec toi, si tu veux. Et donc, j'invite les gens qui ont prié ces derniers dimanches à venir devant, comme nous avons fait. Et j'invite les musiciens à venir pour que nous puissions chanter ensemble. Levons-nous pour chanter.